9h, 10h, c'est arrivé demain.
François Claus sur Europe 1.
Bonjour Justine.
Bonjour François.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un mois, cela fera un mois demain que la France, entre résignation, colère et soutien, vit au rythme d'une grève à l'ancienne, portée par un front syndical que l'on pensait moribond, emporté il y a un an par la vague jaune dans notre pays. Mais où va donc le mouvement social français? Question que nous poserons dans un instant à l'historien Gérard Noiriel, auteur d'une histoire populaire de la France. Dans quelques jours, quelques semaines, la date est encore incertaine, le Sénat américain, dans une procédure historique, la troisième seulement dans toute l'histoire du pays, décidera ou non du sort de Donald Trump. Doit-il être destitué? Pas beaucoup de suspense, la majorité républicaine le soutient au Sénat. Mais quelles conséquences sur l'élection présidentielle alors que nous sommes à 5 semaines de la première primaire américaine, celle de l'Iowa? Où va donc l'Amérique? Question que nous poserons à Nicole Bacharan, auteur du Monde selon Trump. Alors que le foot britannique bat son plein ce week-end, le Boxing Days pour le championnat aux 3 milliards de revenus, quand les fonds de pension américains, chinois et du Golfe préemptent le grand divertissement mondial, mais où va donc le foot que nous aimons? Question que nous poserons à Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Cela faisait 50 ans qu'on n'avait jamais été autant au cinéma en France. 210 millions d'entrées en 2019. Et pourtant, ces nuages qui s'amoncellent sur le cinéma français, blockbusters écrasants, plateformes menaçantes et lois sur l'audiovisuel qui menacent l'avenir du cinéma, l'inquiétude des réalisateurs français exprimée tout à l'heure avec le réalisateur Pierre Jolivet, président de la Société des auteurs, réalisateurs et producteurs.
Europe 1, c'est arrivé demain. François Claus.
Bonjour Monsieur Noiriel.
Bonjour.
Au moment où l'on peut retrouver en librairie votre histoire populaire de la France, de la guerre des 100 ans à nos jours, augmentée d'une postface assez complète sur les gilets jaunes. Il y a un an, jour pour jour, les gilets jaunes avaient inventé finalement une forme de mouvement social nouveau. Ils sonnaient la fin des mouvements syndicaux classiques. Un an plus tard, nous sommes en ce dimanche au 25e jour de grève d'un mouvement encadré par les syndicats, avec des trains bloqués, des âgés tous les jours. On a le sentiment qu'on serait revenu finalement un an après les Gilets jaunes à une forme de mouvement ouvrier classique, diriez-vous ?
Effectivement, enfin, c'est toujours un peu le problème quand on est le nez sur l'actualité. C'est-à-dire, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes a été tellement, je dirais, il nous a tous surpris, hein, dans des formes d'action, dans la radicalité aussi, que on a senti que quelque chose de nouveau était en train de naître. Ceci dit, ça n'invalidait pas pour autant les autres formes de résistance syndicale plus classiques, et on les a vues ressurgir effectivement avec ce mouvement. Je pense que ça n'invalide pas quand même complètement le constat qu'on avait pu faire. C'est-à-dire que là, l'enjeu est tellement important que, effectivement, on a vu ressurgir les structures, je dirais, syndicales classiques qui relèvent de l'histoire longue du mouvement ouvrier. Mais je pense que ça n'invalide pas complètement les mutations qui ont été illustrées par le mouvement des Gilets jaunes.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'inversion de la sémantique et du discours, que le mouvement social était engagé sur l'idée d'une forme de progrès, on se bat pour faire progresser le monde, et aujourd'hui on a face à face deux dialectiques, celle d'un pouvoir en place qui se présente comme celui de la modernité, de la révolution numérique, qui veut accompagner ce progrès, et ce qui serait une forme de conservatisme que de refuser les réformes du côté du mouvement ouvrier.
En tant qu'historien, je retrouve là un certain nombre de discours. C'est-à-dire, chaque fois dans l'histoire des luttes sociales, on a vu quand même cette espèce d'opposition, toute forme de résistance finalement populaire. C'est-à-dire des gens qui essayent de conserver le peu qu'ils ont. Voilà. Peut être interprété comme du conservatisme par des élites qui, en général, ne vivent pas la même chose. Et qui ont des visions qui, à la longue, ne sont pas toujours aussi rationnelles qu'on veut bien le dire. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une dialectique, c'est une dialectique sociale qu'on retrouve depuis plusieurs siècles, qui explique le mouvement de l'histoire et que chacun défend un petit peu ses intérêts, sa vision du monde. et que souvent les résistances populaires amènent aussi les élites ou les dirigeants à poser les questions autrement, parce que il y a pas des gens qui sont omniscients, vous voyez, dans l'histoire on n'en trouve pas. Le fait que chacun puisse s'exprimer, quel que soit son milieu social, quel que soit ses modes d'action, me semble être une preuve de la vitalité d'une démocratie, même si les mouvements sociaux comme ceux qu'on vit aujourd'hui peuvent être difficiles, à la fois pour ceux qui les mènent, parce que c'est pas facile de faire grève pendant des semaines, et pour ceux qui peuvent subir les effets de la grève des transports. Mais c'est ça la logique, et je pense que la France est un pays assez représentatif. Quand on voit sa très longue histoire, on voit très bien que les transformations, ce qu'on considère aujourd'hui comme des progrès sociaux, ont souvent été le produit de ces dimensions conflictuelles entre différentes composantes de la société.
Gérard Noiriel, comment l'historien explique la vivacité du mouvement d'aujourd'hui, 25e jour, alors qu'on voit bien que le pouvoir a joué sur une fragmentation, voire un pourrissement du mouvement, qui finalement reste toujours aussi vivace. Vous nous avez dit, c'est trop important, cette histoire de retraite.
Ben oui, parce que, si vous voulez, vous avez des observateurs extérieurs. Je pense à un article du Guardian, le grand journal progressiste britannique, qui constate que le système de retraite, c'est-à-dire ce système qui est un héritage quand même de la résistance, du CNR, d'une histoire fondamentale pour les Français, enfin de la sécurité sociale, le système des retraites, on sent bien que c'est ce système-là qui est menacé. Et les exemples qu'on peut avoir dans d'autres pays qui ont appliqué des systèmes de retraite par points montrent que le taux de pauvreté s'est accentué chez les seniors. Donc ça, ce sont des faits, je dirais, qu'au-delà de l'idéologie et des préférences des uns et des autres. Donc c'est ce qui fait qu'il y a quand même dans l'opinion énormément de gens qui, même s'ils ne sont pas en grève, on le voit dans les sondages, soutiennent ce mouvement-là, parce qu'on sent bien que ce qui est en jeu, c'est quand même toute une forme de protection sociale qui est en France parmi les plus élevées. Donc les gens pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, pas seulement à eux-mêmes. Donc je crois que c'est ce qui explique. C'est peut-être le seul domaine aujourd'hui où on puisse trouver, je dirais pas un consensus, faut pas exagérer, mais quand même une large adhésion populaire, voyez, à des revendications. Parce que ça, on le sait, en France, les Français sont attachés à leur retraite, à leur système de protection sociale, et beaucoup de gens craignent que ce soit remis en question. Alors évidemment, ça s'explique aussi dans un contexte d'angoisse collective, de crainte pour l'avenir, bon, de perte aussi globalement du niveau de la France sur le plan économique mondial, etc. Il y a d'autres facteurs, mais je pense que ça cristallise toute une série d'inquiétudes qu'on trouve aujourd'hui chez beaucoup de gens.
Alors la cristallisation de ces inquiétudes, justement, si on ajoute à ça les possibilités de contourner ce qui est le pouvoir de nuisance classique de la grève, si je veux être caricatural, en 95 par exemple, il n'y avait pas de trottinette, il n'y avait pas de blablacar, il n'y avait pas une possibilité de mise en réseau des automobilistes qui peuvent aujourd'hui mieux contourner la grève. Est-ce que du côté des grévistes, cela ne peut pas entraîner une forme de raidissement et de lutte un petit peu plus violente, comme on l'a vu par exemple avec les coupures d'électricité sauvages ces dernières heures?
Il y a deux sentiments très importants dans les milieux populaires, c'est la dignité et le sentiment de justice. Si le sentiment d'injustice s'accroît, et je pense qu'on va un peu vers ça, parce que vous avez vu que cet argument d'une universalité du système est remis en cause aujourd'hui. Tous les jours, on a des gens, on nous dit, ah bah oui, eux, ils vont conserver les avantages acquis parce qu'ils sont militaires, parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils sont aiguilleurs du ciel, etc. Alors les autres se disent, mais pourquoi pas nous? Si vous voulez, c'est tout à fait humain. Donc si ce sentiment d'injustice s'accroît, et s'il n'y a pas de véritable négociation prenant en compte ce que disent les représentants syndicaux, alors là, on peut avoir des formes effectivement plus radicales d'action. Parce que c'est aussi les gilets jaunes qui ont montré ça. Vous avez vu l'année dernière quand même, alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux, les gilets jaunes, par rapport aux grévistes d'aujourd'hui, eh bien, la radicalité des actions, l'illégalité même des formes d'action, a en partie fait céder le gouvernement. Donc les gens peuvent être tentés de se dire, ah bah oui, il y a comme ça qu'on peut arriver à quelque chose, donc allons-y, coupons le courant, ou je sais pas, ou faisons des actions coup de poing, comme on dit, et c'est comme ça qu'on aura satisfaction. Je pense que c'est un risque qui n'est pas à négliger.
Merci beaucoup Gérard Noiriel d'avoir apporté votre regard d'historien au mouvement donc qui en est aujourd'hui à son 25e jour, et je renvoie tous nos auditeurs vers Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. C'est publié chez Agone, Mémoire sociale. Merci encore Gérard Noiriel.
Eh bien, merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, où va donc l'Amérique ? Nicole Bacharan.
Europe 1. De 9h à 10h, on vous retrouve, François Claus, avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Le monde selon Trump, c'est le titre de son dernier ouvrage, publié chez Taillandier. Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Dans la tête de Trump, disait l'une de vos consoeurs, on aimerait y être. Également, c'est le titre d'un autre ouvrage sur Trump dans ce qui se joue en ce moment même. Il faut rappeler quand même qu'on vient de vivre, il y a une dizaine de jours, un événement absolument historique, 3 fois seulement dans l'histoire américaine. Le président est sous le coup d'une procédure de destitution qui a été majoritairement votée par la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale à majorité démocrate, Nicole Bacharan.
Oui, vous avez raison de souligner le caractère exceptionnel, puisque cette procédure a eu lieu une fois au XIXe siècle, après la guerre de sécession, donc dans un contexte partisan très difficile. Puis on connaît évidemment le procès en destitution de Bill Clinton dans les années 90, et maintenant Donald Trump. Et le quatrième exemple qui n'est pas allé au bout, c'était Richard Nixon qui a choisi de démissionner avant que la Chambre ne vote la mise en accusation.
Nous étions là en 1974 et Andrew Johnson nous ramenait aux années 1868, donc on mesure effectivement le caractère totalement historique. Et pourtant, j'ai envie de dire, la procédure doit maintenant aller devant le Sénat, Sénat à majorité républicaine. On a le sentiment que c'est chronique d'une destitution qui ne sera pas prononcée contre Trump.
Oui, ça semble vraiment joué d'avance. On imagine mal ce qui pourrait pousser les sénateurs républicains à abandonner le patron de la Maison-Blanche. Ils sont vraiment tous rangés derrière lui, ils font bloc. C'est à une ou deux défections peut-être, on ne sait jamais. Mais sachant qu'ils ont une solide majorité au Sénat et que pour destituer le président, il faudrait une majorité surqualifiée de plus de 66 voix. Vraiment, vous avez raison de dire que c'est joué d'avance. Et en même temps, quand vous évoquiez à l'instant les quelques procédures précédentes, le côté historique, et bien à chaque fois, si on prenait le temps de détailler chacune de ces anciennes procédures, on verrait qu'elles ont eu lieu à des moments de crise très très profonde dans le pays et de divisions partisanes extrêmement aiguës. Et là, on est évidemment, on le ressent tous quand on est aux États-Unis, mais même à distance, le pays est dans une crise politique très profonde.
Est-ce que vous pourriez, puisque vous rentrez des États-Unis, Nicole Bacharan, que vous y alliez très régulièrement, nous définir les raisons, les racines de cette crise qu'on mesure peut-être pas suffisamment en Europe, où on s'amuse ou on s'offusque des tweets d'un Trump un peu grotesque sans aller au fond des choses. Comment vous pourriez définir cette crise profonde qui est celle qui touche l'Amérique ?
Je crois déjà qu'on a un pays, et on le vit ailleurs dans le monde, qui est en transition sur le plan économique, ou la question de l'organisation du commerce, ou la question de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'adaptation à l'intelligence artificielle, à tous les phénomènes et développement de tout ce qui est cybernétique, etc., etc., toutes les questions que ça pose sur l'avenir de l'emploi, de l'économie. Déjà, c'est un moment très compliqué à vivre. La division partisane aux États-Unis, telle qu'on la connaît aujourd'hui, on peut, disons, en faire remonter les racines aux années 90, justement à la présidence de Bill Clinton, où d'un côté, Clinton était considéré un peu comme un usurpateur, particulièrement par les gens du Sud, ce fils du peuple qui était très proche de la communauté noire, qui marquait l'avenir d'une Amérique multiculturelle, multiethnique, face à une partie de l'Amérique qui le refusait, et une droite de plus en plus vigoureuse, de plus en plus à droite, de plus en plus extrême, ça a pris des décennies. Et au fond, Donald Trump, c'est une forme d'aboutissement. Il met ça en scène d'une manière tellement extrême, tellement brutale, que par moments, on peut y voir, en effet, des aspects comiques. On a l'impression qu'il y a deux camps absolument retranchés, les pro-Trump, les anti-Trump qui sont ulcérés, et puis au milieu, il y a les gens qui pourraient basculer d'un côté ou de l'autre, et particulièrement ceux qui se disent « bon, de toute façon, la politique, un peu tous pourris, mais l'économie marche bien ». Donc ça, ce serait plutôt en faveur de Trump. Mais les débats entre pro et contre Trump sont quasiment impossibles.
C'est ce qui explique que malgré la gravité des accusations que la Chambre des représentants à majorité démocrate a mises en exergue, poussées par cette très expérimentée Nancy Pelosi, que Que c'est la gravité de ces accusations. C'est quand même un président qui appelle son homologue en Ukraine et qui lui demande de faire une enquête sur le fils de son principal rival dans la course à la présidence. Malgré cette gravité, ça passe, on a envie de dire.
Ça passe auprès de l'électorat de Donald Trump. C'est vrai que Donald Trump, il n'a jamais été majoritaire dans le pays, ni au moment des élections, même si son élection est légitime dans le système américain, mais en compte de voix, il n'a jamais eu une majorité d'électeurs derrière lui. Et dans les sondages, depuis qu'il est là, il est toujours autour de 42-43%. Il ne monte pas plus, mais rien n'ébranle ce socle de 42-43%. Or, c'est vrai que les accusations sont graves. Il s'agit, comme vous l'avez bien dit, de demander l'aide d'une puissance étrangère dans une élection américaine. Et quand on le formule comme ça, aux États-Unis, c'est extrêmement grave. Si vous remontez, moi j'aime la passion de cette époque-là, mais à la naissance du pays, de la Constitution, etc., tous les débats des pères fondateurs, comme on les appelle, tournaient autour de cette idée, ne pas subir l'influence de l'étranger sous aucune forme. Et c'est vrai qu'on sait qu'en 2016, il y a eu influence de la Russie sur les élections. Là, Donald Trump fait appel à une autre puissance étrangère, voire verrait d'un bon œil une éventuelle influence russe en sa faveur. Donc c'est extrêmement grave. Et dans le cas ukrainien en particulier, ce qu'il a mis dans la balance, c'est quand même l'aide militaire à un pays en guerre et à un pays très fragile face à la Russie. Donc l'accusation est grave, mais auprès des électeurs fidèles de Donald Trump, ils disent « oui, c'est pas très bien, mais bon, finalement ». Donc ça passe.
Et si cette affaire n'aboutit pas à une destitution de l'actuel président, comme c'est tout à fait probable, elle va avoir, Nicole Bacharan, un impact réel sur la campagne. Et la campagne, elle arrive très vite. Premier caucus, celui de l'Iowa, le 3 février. Le lendemain, discours du président sur l'état de la nation. On arrive très vite à la campagne pour la réélection ou pas de Donald Trump. Et on a vu Donald Trump aller immédiatement, après cette mise en accusation, aller se réfugier auprès de ses électeurs en meeting.
Je trouve que vous avez tellement raison d'utiliser ce terme de se réfugier auprès de ses électeurs. Au début de sa présidence, quand c'était vraiment très compliqué, très difficile, il avait du mal à tracer son chemin dans les règles juridiques américaines, eh bien son staff l'organisait des meetings auprès de ses chers électeurs. Et là, il se sentait chez lui, il se sentait en pleine forme, il était heureux. Bon, là, c'est d'autant plus justifié qu'il est en campagne. Et on risque d'avoir une situation totalement inédite, c'est-à-dire à la fois le procès du président en destitution et le discours sur l'état de l'Union devant tout le Congrès réuni. On a beaucoup de mal à imaginer comment vont se dérouler les semaines qui viennent. Je crois qu'auprès des électeurs de Donald Trump, ils vont être galvanisés par cette procédure de destitution. Comment on veut leur arracher leur cher président, l'empêcher de se représenter? Mais malgré tout, il va y avoir une marque, un jugement sur la présidence de Donald Trump, même s'il n'est pas destitué, il ne le sera pas. Il a été jugé quand même très sévèrement. Obstruction au Congrès, abus de pouvoir, c'est quand même quelque chose qui va plomber aussi un petit peu sa campagne.
Est-ce que vous diriez, ce sera ma dernière question, Nicole Bacharan, que finalement cette affaire Trump marque aussi, peut-être un petit peu comme ce qu'on est en train de vivre en France du côté des mouvements sociaux, l'expression de la fin d'une époque et de la difficulté à entrer dans une nouvelle époque? Vous évoquiez tout à l'heure l'esprit des pères fondateurs de l'Amérique qui ne comprendraient absolument pas que l'Amérique soit prête à tomber dans les bras d'une puissance étrangère pour assurer sa stabilité au pouvoir. Est-ce que c'est ça, Trump? Une époque qui est en passe de changer, on ne sait pas où on va.
Je pense que ça marque la fin d'une époque et on va vers une Amérique et un rôle de l'Amérique dans le monde qu'il faudra ou reconstruire ou imaginer tout à fait autrement. Et c'est vrai que face à ça, on a le sentiment que la campagne démocrate, au moins pour l'instant, et elle a du mal à s'exprimer parce que toute l'attention est polarisée par cette procédure d'impeachment, on a le sentiment que la campagne démocrate, elle peine à imaginer l'époque suivante. Vous avez des gens très à gauche, d'autres plus modérés, mais néanmoins qui offre une vision vraiment forte d'un avenir pour le pays. Pour le moment, en tout cas, on ne le voit pas.
Merci beaucoup, Nicole Bacharan, de nous avoir éclairé sur cette situation en Amérique qu'on va vivre évidemment de manière haletante dans les prochaines semaines. avec la procédure et on peut dire même le procès de Donald Trump devant le Sénat. Et même si le résultat est quasiment attendu, on va mesurer évidemment les conséquences que cela aura pour une élection présidentielle dont la campagne va débuter dans quelques semaines. Ben, l'occasion pour nous ici à Europe 1, Nicole Bajaran, de vous présenter nos meilleurs voeux, de vous souhaiter une bonne année, une longue vie à votre ouvrage « Le monde selon Trump ». Qu'on peut trouver chez Talendier et qui est, on peut le confirmer, sur tous les étals des librairies actuellement, tellement les Français se passionnent sur le cas de Trump. Merci Nicole Bacharan.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, Arsenal-Chelsea, 15h cet après-midi. Du foot ? Non, pas seulement. Quel avenir pour le foot ? Vincent Chaudel est là.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec François Claus sur Europe 1.
Bonjour Vincent Chaudel.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'Observatoire Sport Business. Vincent Chaudel, en cette période très revendicative en France, c'est un slogan qu'on n'a peut-être pas suffisamment entendu. Il émane des tribunes, des stades de foot. On l'avait entendu à Marseille à une époque. On l'a entendu à Nantes ces derniers mois. Et puis tout récemment à Bordeaux, des supporters de foot, non, ils ne veulent pas s'en prendre à l'arbitre, pas aux joueurs, pas à leur entraîneur, non. Ils disent simplement « rendez-nous notre club ». Et le message est destiné aux actionnaires. Est-ce que le foot, à l'heure de l'argent, du business, vous qui avez fondé cet observatoire Sport Business, est menacé?
Alors, il n'est pas menacé parce que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette volonté ou cette question récurrente qui était de dire à qui appartient un club. Est-ce qu'il appartient à son propriétaire qui en assume les dépenses et les salaires? Est-ce qu'il appartient à une ville, puisque chaque club est ancré dans une ville? Est-ce qu'il appartient à ses supporters? Alors en fait, la réponse, elle est multiple et elle dépend aussi des pays, des modes d'organisation. En Espagne, on est sur un mode socios et la réponse, elle est claire. Elle appartient donc aux membres de cette association qui votent pour des présidents. Les présidents du Barça ou du Real peuvent être révoqués, peuvent être remerciés du jour au lendemain parce que les membres ne sont plus d'accord.
Derrière cette question de l'organisation des clubs, ce qui se joue, c'est la partie de culture de ce que représente un club de foot et de ce que représente le foot en tant que sport et non pas forcément en tant que spectacle, Vincent Chaudel.
Tout à fait. Et d'ailleurs, si on reprend le cas de l'Espagne et de Barcelone en particulier, le slogan du club, c'est plus qu'un club. Et on se rend bien compte que se joue sur un rectangle vert bien plus qu'une opposition entre 11 garçons très trop payés selon la vie des uns des autres contre 11 autres pour mettre un ballon au fond des filets. Non, il se joue bien plus que ça. Le football, c'est un sport, bien évidemment, mais c'est plus qu'un sport, c'est un phénomène de société, c'est un phénomène social et c'est un phénomène économique. Et c'est ça qui est pas assez souvent expliqué et qu'il est intéressant de décrypter ensemble.
Alors, mais justement, dans ce domaine économique, est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, de scier l'énorme branche sur laquelle le foot est assise avec cette délirante financiarisation du football? Là, je vais vous donner un chiffre. On est en plein Boxing Day, la grande fête du foot anglais entre Noël et Nouvel An. Les droits télé anglais pour les trois saisons 2019-2022, c'est 4,8 milliards d'euros, c'est-à-dire 1 milliard de plus que la période des trois années précédentes. Plus d'argent, ça veut dire évidemment une manière de gérer le club différemment et des investisseurs qui arrivent de partout, du Golfe, de Russie, des États-Unis.
Alors, le football n'est que le reflet de notre société. Le fait qu'il y ait de l'argent dans le football, c'est pas un phénomène nouveau. Du temps de Copa était un joueur qui gagnait bien sa vie. Mais on avait un football où on avait des compétitions qui étaient plutôt des compétitions qui étaient ancrées nationales, voire de temps en temps continentales. Copa, c'est le milieu des années 50 et c'est le début de la Coupe d'Europe en 56 avec le Grand Real qui s'opposait au Grand Stade de Reims que l'on a connu et qu'on a tous aimé. Maintenant, on n'est plus sur une dimension nationale, même plus continentale, mais mondiale. Un club comme Manchester United, un club comme le PSG, un club comme le Real Madrid sont des clubs qui ont une aura qui les porte dans le monde entier. Et c'est en cela qu'ils sont intéressants pour des annonceurs, parce que ces annonceurs, au lieu d'acheter une page de publicité classique comme une très belle radio comme ici, se disent « Tiens, je vais mettre mon nom sur le maillot d'un joueur et je vais aller, du coup, porter ma marque dans le monde entier. »
Le danger, c'est que cet investissement-là transforme finalement la matière première, qui est le jeu, qui est le joueur, en un produit. Et est-ce que ça ne va pas dénaturer ce qu'est la nature même du sport?
Alors, il y a effectivement un vice dans la démarche, c'est que On vient de parler des clubs, mais derrière, les joueurs, c'est la même logique. Et quand on a un joueur comme Cristiano Ronaldo ou un Neymar, ou demain Mbappé, si ce n'est déjà le cas, ce sont des véhicules parfaits pour embarquer des marques. On passe d'une notion collective d'un club ou d'une équipe à une notion de co-branding et donc d'association de marques entre elles. Le risque, c'est de passer d'un sport collectif à une somme d'individualité. Et ça, ça peut impacter effectivement le jeu.
Et on voit l'organisation des clubs qui aujourd'hui achètent des joueurs pour faire des investissements. Donc on a des clubs délirants qui ont 40, 50, 60 joueurs sous contrat. Monaco, le modèle de Lille également aujourd'hui, et on les revend comme on revend un produit. Comment est-ce qu'on peut créer une identité de jeu, une culture de club dans ce qu'est ce nouvel environnement ?
Ce qu'on vient de décrire là, ce que vous venez de décrire là, c'est exactement ce qui se passait à Auxerre dans les années 80. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est juste la proportion et les montants qui sont très important. C'est ça qui a changé. Mais le mécanisme d'avoir des clubs formateurs qui vendaient le produit de leur formation, c'est-à-dire les joueurs, à d'autres clubs plus ambitieux et plus fortunés, c'est pas un phénomène nouveau. Ce sujet-là, en revanche, fait que là où on avait des transferts qui se faisaient à autour de 25 ans, 26 ans, ils se sont faits vers 23, vers 22, et aujourd'hui plutôt vers 17, 18. Le problème, c'est ça, c'est-à-dire qu'on descend l'âge de ces mouvements. Et c'est ça qui me semble peut-être plus problématique.
Alors, l'identité d'un club ancré dans sa région, dans sa ville, est quand même très largement menacée. On vient de le vivre avec cette compétition, la Coupe du Monde des clubs, qui a lieu au Qatar. Liverpool la dispute. Il y a en même temps un quart de finale de Coupe de la Ligue en Angleterre. Liverpool envoie son équipe B qui prend 5-0. La compétition nationale est totalement dénaturée.
Alors, ils ont dénaturé la Coupe de la Ligue, ils n'ont pas dénaturé la Cup et ils ont encore moins dénaturé la Première Ligue. C'est-à-dire que, effectivement.
Oui, mais à terme, on peut se dire que la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga espagnole n'existeront plus et qu'on aura un club fermé de 16 équipes super riches qui joueront tous les week-ends entre elles.
Alors, ça, c'est la question qui taraude le monde du football depuis plus de 20 ans. Rappelons-nous du temps de Berlusconi, l'affaire Media Partner. Il y avait un projet de ligue fermée au milieu des années 90. Et ce projet revient aujourd'hui sur le devant de la scène. La question est de savoir si on peut vivre avec une ligue fermée et est-ce que ça générera encore de l'émotion pour les fans de football. On le voit aux États-Unis, ce sont des ligues fermées et de l'émotion, il y en a. Donc la réponse est oui. Maintenant, est-ce que ça va satisfaire vous et moi qui sommes des grands passionnés ou satisfaire le grand public ? Le grand public marchera. Est-ce que les passionnés répondront ? Bah, je pense que si ça devait se faire, ils répondraient positivement parce qu'on verrait des grands matchs. En revanche, il y aurait effectivement la frustration de ne plus avoir nos oppositions locales, qui fait quand même le sel. Et les Anglais aiment ça, les Français l'aiment aussi.
C'est clairement menacé par cette nouvelle organisation mondiale du football. On le voit aussi à travers les Coupes du Monde. On va avoir une Coupe du Monde au Qatar qui va jouer d'abord en hiver, même sur un territoire totalement artificiel, au milieu du désert, dans un territoire grand comme un département français.
Comme la Corse.
On n'est absolument pas dans cette dimension d'une Coupe du Monde dans tous les coins du Brésil ou de la Russie, comme on vient de le vivre. C'est définitivement fini. C'est un spectacle qui va être fait pour la télévision, avec des bandes-annonces, avec des joueurs qui sont des icônes.
Alors, la relation du football et la télévision, là aussi, c'est pas un phénomène nouveau. La vraie bascule, par exemple, ça a été la Coupe du Monde de 70, et avec cette première Coupe du Monde en couleur. Donc oui, il y a une relation très très forte, une interpénétration entre les médias et le sport. D'ailleurs, dans un des ouvrages que l'on avait développé, on avait cette notion d'un scénario où c'était les médias qui prenaient la main sur l'organisation du sport. On s'en rapproche.
On n'en est pas très loin avec les droits télé, là.
Exactement. Quand on met de telles sommes sur la table, globalement, on a un mot à dire sur l'organisation et on voit bien l'importance et l'influence que les médias peuvent avoir désormais dans l'organisation du sport.
Est-ce que ça veut dire que, en fait, il faut vivre avec son temps et accepter cette idée que si j'habite à Guingamp, je vais supporter ou Arsenal ou le Real, mais plus le club de ma ville ?
Il y a une radio qui s'appelle « Écoutez le monde changer ». Le monde change et le monde du football aussi. Il n'y a aucune raison qu'il ne change pas. Est-ce que c'était mieux hier par rapport à aujourd'hui ? On a tous un avis là-dessus, mais évidemment que ça change et évidemment que, vous avez parlé de Guingamp, tout à l'heure j'ai parlé d'Auxerre, demi-finaliste de Champions League, on l'a connu, on le connaîtra plus, c'est fini. Est-ce qu'on doit s'en satisfaire? Est-ce qu'on doit le regretter? C'est comme ça, il faut avancer, je pense.
Mais la glorieuse incertitude du sport, ces parcours non écrits, elle existe de moins en moins quand même.
Elle existe encore. Malheureusement, le PSG l'a payé au prix cher l'année dernière. On les voyait très loin.
C'est un bon clin d'œil hein, par rapport aux revanches sur l'argent ne fait pas tout.
Mais bien sûr, en fait, l'argent est nécessaire. C'est un point de départ, c'est le prérequis, mais ça ne garantit pas le succès parce qu'à la fin, et c'est la force du football et du sport en général, ça reste des aventures humaines. Vous pouvez être dominant et taper 5 fois les poteaux et puis sur une action, à la dernière seconde, provoquer un pénalty, avoir la VAR, ce qui s'est passé contre Manchester et être éliminé.
Et vous écrivez, Vincent Chaudel, « Sans argent, on ne peut pas être un grand club, mais sans public, on ne peut pas s'enrichir. » Est-ce qu'il n'y a pas un danger que le public dise non à cette évolution-là, quand on voit que le prochain diffuseur du championnat de France, qui a mis 780 millions d'euros pour des droits estimés à 1,150 milliards en France, annonce vouloir convaincre 3 millions de Français de mettre 25 euros par mois, j'ai bien dit 25 par mois, pour regarder la Ligue 1. Est-ce qu'à un moment, le public va dire « Non, ça ne m'intéresse plus
?» C'est toujours le sujet, d'un point de vue marketing, on aura tendance à dire de parler de l'élasticité du prix. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a toujours une limite. La question, c'est de la connaître. Moi, aujourd'hui, je pense que notre habitude de consommation des médias a changé. Avant, on payait 20 ou 30 ou 40 euros pour des bouquets de télévision. On avait 150 chaînes, on en regardait 3 ou 4. Maintenant, on mettra peut-être le même montant, mais sur des chaînes que l'on veut regarder. Est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que ça va être un succès? Je ne sais pas encore dire, mais la réalité des choses, c'est quand même qu'on a changé nos habitudes de consommation. Et c'est clair que pour ce sujet-là, comme pour d'autres sujets, c'est bien nous, les citoyens, nous, les consommateurs, qui avons les réponses.
Merci beaucoup Vincent Chaudel de nous avoir accompagnés dans ces réflexions en plein Boxing Day, parce que pour le moment, la magie du foot, même si on dénonce ça, ben on sera devant sa télé pour regarder évidemment le football ce week-end en Angleterre. Je renvoie à un de vos articles, joli titre, Conventio Urbanum Est, c'est du latin, oui. Grandeur et décadence du football d'aujourd'hui jusqu'aux années 2030, où vous évoquez plusieurs scénarios de l'évolution du football jusqu'à 2030, où on verra peut-être une Coupe du Monde en Chine, un pays qui n'a jamais tapé dans un ballon. Ce sera intéressant à suivre aussi.
Je pense que vous avez raison. Je veux bien faire le pari, ça sera en Chine.
Merci beaucoup Vincent Chaudel.
Europe 1. Ce dimanche, vous êtes avec François Claus pour C'est arrivé demain.
Et nous sommes surtout avec Pierre Jolivet, bonjour.
Bonjour.
Pierre Jolivet, le réalisateur et aussi le président de la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs. Pierre Jolivet, le chiffre n'est pas encore définitif, on le connaîtra dans les prochaines heures, mais ça a un peu fuité ces derniers jours. On parle de 210 à 215 millions de tickets de cinéma vendus en France en 2019. C'est la sixième année consécutive qu'on dépasse les 200 millions d'entrées. C'est l'un des deux meilleurs scores des 50 dernières années. J'imagine que ça vous réjouit, les Français vont au cinéma.
Oui, bah oui, c'était très réjouissant. C'est d'autant plus réjouissant que, vous savez, on avait annoncé la mort du cinéma à l'arrivée de la télévision, on avait annoncé la mort du cinéma à l'arrivée de Canal+, et puis on avait annoncé la mort du cinéma avec la naissance des grandes plateformes, et on se rend compte que le cinéma est en pleine forme. Ça veut dire que ce plaisir du cinéma est tout à fait unique, il est substituable à aucun autre. La sensation du grand écran d'un film qu'on regarde tous ensemble, ça reste une sensation qui n'est substituable à aucune autre, donc ça explique le succès.
On n'avait peut-être même pas anticipé que l'un pourrait se nourrir de l'autre. C'est-à-dire que de voir même des très bonnes séries n'empêche pas d'aller chercher une autre sensation qui est celle de vivre ensemble dans un lieu confiné, la même émotion au même moment.
Oui, puis pas seulement, vous savez, les séries, c'est des commandes pour la plupart du temps, dont on ne sait pas bien trop la plupart du temps qui les réalise, comment ça a été décidé. Le cinéma, ça reste l'œuvre d'un homme, d'une femme qui donne sa vision du monde. On pourrait dire que les grandes plateformes, tout ça, c'est un peu le supermarché, c'est-à-dire vous y trouvez à peu près tout ce que vous voulez, du produit courant, mais qui sont souvent des produits manufacturés, même s'ils sont parfois réussis. Le cinéma, c'est le bio. Ça reste une émotion unique d'un auteur, d'un créateur, d'un producteur qui a voulu ce film-là et pas un autre et qui crée des prototypes. La force du cinéma, c'est de créer des prototypes. La plupart du temps, les séries sont repensées par rapport aux séries qui ont été faites avant.
Et ce qu'il faut bien préciser avant d'entrer plus en détail derrière ces chiffres qui cachent d'autres réalités peut-être un petit peu plus inquiétantes, c'est que c'est une spécificité française qu'il y ait autant de salles, autant de publics dans les salles. pouvez nous expliquer, Pierre Jolivet, comment on réussit ce miracle, nous, en France?
Alors, c'est un combat de longue date. D'abord, on est un des grands pays du cinéma. Le cinéma est né ici, aux États-Unis. C'est pas pour rien que nous sommes encore aujourd'hui le troisième cinéma du monde au niveau du nombre d'entrées et de films produits. Nous sommes le premier cinéma du monde quant à la production indépendante. Nous sommes le pays qui produit de plus les autres pays, ce qui n'est pas rien, mais ce qui explique aussi ce succès. Et évidemment, c'est le résultat d'un combat politique permanent. Il y a jamais loin entre le cinéma, la culture et la politique. On se rend bien compte, tout le monde s'extasie du formidable film de la Corée du Sud, Les Parasites, qui a eu la Palme d'Or et qui a un très grand succès populaire. Mais la Corée, il y a 15 ans, il y a un gouvernement qui dit stop, on va mettre 50% de films coréens dans les salles. Contre les États-Unis, qui les attaquent sur le maritime, sur l'acier. Et ils disent non, on va avoir 50% de films coréens. En 15 ans, le cinéma coréen devient un des meilleurs du monde. Donc,
vous dites bien, c'est une décision politique qui est là pour soutenir et défendre une production locale, made in France, donc pour ce qui nous concerne. C'est aussi cette loi qui permet, finalement, sur chaque ticket de cinéma, il y a une taxe qu'on paye, nous, en tant que consommateurs de cinéma, qui permet de financer et les salles et la production française.
Oui, absolument. C'est pas un argent qui est pris sur le budget de l'État ou qui est pris sur vos impôts. C'est quand vous allez au cinéma, vous financez cette bonne santé du cinéma. Et ça, c'est une idée géniale qui est venue après la guerre grâce à Malraux et à De Gaulle. Et nous, on essaye de perpétuer ce principe-là, ce système incroyable français et qui est très fragile. Regardez en Italie, Berlusconi est arrivé, il a tout dérégulé, il n'y a plus de cinéma italien. Donc en face d'une vraie démarche de, je dirais même pas de politique culturelle, mais d'industrialisation culturelle des États-Unis et de la Chine, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de prendre ce beau marché européen qui est le plus grand du monde au niveau du nombre de spectateurs. Et évidemment, il y a là une stratégie culturelle très violente, donc on est forcé, nous, d'avoir une stratégie culturelle, politique très forte.
Alors vous avez, Pierre Jolivet, employé le mot dérégulation en évoquant l'Italie. Votre combat est d'éviter que la France tombe dans cette dérégulation. Expliquez-nous ce que ça veut dire et comment elle pourrait tomber dans ce danger,
ce piège qui
menace, alors que nous sommes à quelques semaines, à quelques mois du vote d'une loi décisive, la loi sur l'audiovisuel, la première depuis 1986. Oui. Au Parlement, le texte a été adopté là début décembre en Conseil des ministres.
Tout à fait. Et tout le travail que nous faisons actuellement, c'est de faire en sorte que cette loi soit extrêmement forte et surtout exemplaire pour le reste de l'Europe. Pourquoi le cinéma français marche bien? C'est que grâce à Canal+, Orange, c'est des grands groupes qui ont des obligations. Ils ont des obligations d'investissement, le service public, TF1, des obligations dans le cinéma. Et dans le cadre de ces obligations, Canal+, Orange ont des obligations de diversité. Ils doivent investir dans le cinéma, mais dans tous les cinémas. Or, ce qui explique beaucoup notre grand succès, c'est cette diversité. C'est que vous avez des petits producteurs indépendants qui vont faire Les Misérables, petit film qui va aller à Cannes et qui est un gros succès populaire.
Plus d'un million et demi d'entrées aujourd'hui pour le film de La Julie, qui a coûté 2 millions d'euros la fabrication.
Et qui va aller aux Oscars, qui est un petit film indépendant. Et vous avez Jérôme Sédou chez Pathé, qui va produire L'Heure du Loup, qui est un gros succès aussi, et qui fait le tour du monde. C'est ça la force du cinéma français. C'est cette force que beaucoup de cinémas européens ont perdue, c'est qu'on fait des petits, des moyens et des gros films. Alors, ce qui souffre le plus aujourd'hui, c'est les moyens, parce que les petits films d'auteurs sont très nombreux, les très gros films prennent beaucoup d'argent. Le film du milieu, c'est aussi ce qui a fait la force du cinéma français et qu'il faut qu'on conserve.
Alors, derrière cette vision que vous défendez, il y a l'autre vision du cinéma. Derrière les 219 millions d'entrées en France, 215 millions d'entrées en 2019, la part du cinéma français, c'est 30%. Elle baisse un petit peu. Et vous avez des voix qui s'élèvent. Je pense à celle de Éric Noyeuf, le critique du Figaro, qui vient de sortir un pamphlet intitulé « Très cher, cher au sens de l'argent, cinéma français », où il dit finalement on est là à produire 200 films par an, mais qui ne rencontrent pas leur public et c'est une gabegie. Réponse.
Oui, la réponse, elle est très simple. C'est qu'en France, nous avons ce qui s'appelle le Centre National du Cinéma. Chaque film, on sait combien d'entrées il fait. On sait quels sont les échecs, on sait quels sont les succès. Vous avez les chiffres du cinéma américain aux États-Unis? Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 300 films qui ne sortent même pas dans les salles. Ils sont comptabilisés nulle part. C'est même pas des échecs absolus. Ils ne sortent même pas. Vous avez les chiffres de Netflix et de fréquentation des séries? Absolument aucun chiffre. Nous sommes comparés souvent, ils disent bah, « le cinéma français, ça marche pas, regardez ». Mais d'abord, on est les seuls pays en Europe à avoir 30% d'entrées sur nos propres films. Et deuxièmement, on est les seuls à donner les chiffres de nos entrées. Nous sommes une industrie de prototype. Quand on fait du prototype, quoi qu'on fasse, il y a 70% d'échecs. Et c'est pareil aux États-Unis, et c'est pareil pour Netflix, c'est pareil pour les plateformes. Donc tant mieux s'il y a des plateformes, tant mieux s'il y a des apports nouveaux de financement dans le cinéma.
C'est mais inhérent, ce soit, vous voulez dire, la création.
Mais bien sûr, c'est inhérent. Mais bien sûr, quand vous créez un objet qui n'a jamais existé, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ça va plaire aux gens, si ça ne va pas plaire. Or, toute la force de...
Sauf si vous faites un remake à l'américaine, façon oui, Marvel, façon ce que Scorsese a contesté d'ailleurs dans un papier très virulent ces dernières
Mais les grands
semaines.
Créateurs américains sont épouvantés par ce côté remake, sequel, etc. Où on reprend toujours la même idée. Nous, on invente tout le temps. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, ils nous achètent des remakes. Et c'est cette invention qui fait la force. Donc évidemment, et en plus, nous, on le sait, quand ça ne marche pas, c'est marqué noir sur blanc au Centre National du Cinéma et des journalistes peuvent dire, regardez, le cinéma français ne marche pas très bien. Bah, qu'ils essaient d'avoir les chiffres des Américains ou de Netflix.
Alors, on peut noter que dans le bilan de l'année 2019, justement, certes, il n'y a que quelques films français derrière le cinéma américain, mais il y a énormément de films qui trouvent leur public au-delà du million de spectateurs. Hein, on pense au Nom de la Terre, avec Guillaume Canet. On peut penser même au J'accuse de Polanski, au-delà de toutes les polémiques qui ont entouré son réalisateur. La Belle Époque de Nicolas Bedos. Tous ces films-là, finalement, ont trouver une forme de public en France qui fonctionne et qui vous rassure pour l'avenir.
Oui, vous n'êtes pas condamné à faire 35 films qui vont faire 10 millions d'entrées chacune. Il suffit qu'il y ait plein de films qui fassent 500 000 entrées, 600 000 entrées, 800 000 entrées, 1 million d'entrées. J'accuse, c'est joyeux, va dépasser le million d'entrées. Voilà, si vous voulez, c'est cette. Je reviens toujours à cette diversité. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'invention sans diversité. Et c'est cette diversité pour laquelle nous nous battons. Et c'est celle-là qui rencontre le spectateur.
Alors, en 2020, dans quelques semaines, le marché des plateformes va prendre une nouvelle dimension en France, puisqu'on avait jusqu'à maintenant Netflix, OCS, Amazon, l'arrivée de Disney, l'arrivée de Apple TV, cet ensemble,
ah bon
cet ensemble-là, Pierre Jolivet...
Mais personne ne m'avait prévenu, c'est incroyable, je découvre en direct.
Est-il une menace directe pour vous? Est-ce que vous avez face à vous ce qu'on appelle des prédateurs économiques?
Oui, on a non seulement des prédateurs économiques, mais on a les champions mondiaux. C'est les plus grands, c'est les plus forts, ils sont plus forts que certains États. Ils peuvent abîmer le discours démocratique parce qu'ils peuvent décider de ne pas suivre ce que les États leur demandent. Donc nous, c'est très simple. Moi, je trouve ça très très bien que ces plateformes qui arrivent, les gens d'ailleurs les sollicitent, ils voient beaucoup de séries, beaucoup de films. Ce qu'il faut, c'est qu'on les fasse rentrer dans un cercle vertueux. C'est ça tout l'enjeu de cette loi. On ne peut pas avoir d'un côté Canal+, Orange, qui payent leurs impôts en France, qui sont des sociétés françaises, qui ont des obligations d'investissement dans le cinéma et dans la diversité du cinéma, puis avoir à côté des plateformes qui, elles, prennent tout et ne donnent rien. Donc il faut qu'on leur demande, pas qu'on leur demande, qu'on les oblige, c'est le but de la loi, à les faire rentrer d'une façon vertueuse, qu'ils produisent en France en respectant le droit moral. Le droit moral, c'est quoi? C'est le final cut. Tous ces films dont vous parlez, eh ben, c'est une décision du producteur et du distributeur de faire en sorte que ça soit cette œuvre-là et non pas une autre. Pour l'instant, les plateformes ont beaucoup produit ou c'est eux qui ont le final cut, c'est eux qui décident ce que sera à la fin le film. S'ils rentrent dans un cercle vertueux, à savoir que le final cut reste aux réalisateurs et aux producteurs et qu'ils ont des obligations dans la diversité, tout le monde va y gagner. Et d'ailleurs, ils commencent à dire qu'ils sont d'accord sur ce principe parce que ça les intéresse, ces spectateurs français qui sont friands de films différents, qui regardent beaucoup de films à la télévision, au cinéma. D'ailleurs, on parle de e-cinéma, il ne faut pas parler de e-cinéma. Le cinéma, c'est un théâtre, c'est un endroit où tous ensemble va voir un film. On peut parler de e-film. Et c'est vrai qu'il va y avoir des e-films qui vont sortir, qui sont des vrais films, mais qui ne seront pas destinés au cinéma.
Oui, on l'a vu avec ce magnifique film qui s'appelait Roma, notamment, qui a été produit par des...
Alors, ce n'est pas du tout ça l'histoire. Roma est produit pour le cinéma par Cuaron, et puis il manque de financement, et Netflix va le financer in fine. Mais ce n'est pas une initiative de Netflix. Faire du cinéma, ça veut dire qu'il y a un producteur derrière qui, un jour, avec un réalisateur, on dit « on va faire cette œuvre-là si particulière ». Il se trouve que les plateformes avec leurs moyens financiers aujourd'hui passent derrière. Si vous voulez, ils récupèrent cette formidable création qui est la naissance d'une idée, d'un réalisateur et d'un producteur.
Mais en lui donnant les moyens de travailler. On a vu tout Scorsese et Woody Allen qui ont cédé à ces sirènes-là aussi ces derniers mois. Et donc là, ils font œuvre utile quand même.
Œuvre utile parce qu'on sait que sur ces grands auteurs-là, ils auront la liberté de création qu'ils veulent. Nous, ce qu'on veut en France, et c'est ça qui fait notre force, qu'on a résisté beaucoup mieux que les autres, on veut qu'un premier réalisateur, une première réalisatrice qui fait son premier film, c'est quand même elle qui a le final cut. Pour l'instant, il donne la possibilité à ceux qui sont très connus. Nous, on veut que la liberté d'expression, elle soit aussi pour ceux qui démarrent. Car ceux qui démarrent, ce sera le grand cinéma de demain.
Et puis la liberté d'expression, ça va au-delà de l'œuvre cinématographique. C'est, comment dire, c'est un élément du vivre ensemble, un élément de la démocratie nécessaire.
Eh bien, c'est d'autant plus nécessaire que quand vous avez le final cut sur une histoire, vous essayez d'exprimer quelque chose qui vous ressemble au plus près de ce que vous êtes. Or, il se trouve que ce que vous êtes, c'est aussi ce que sont des millions de gens. C'est aussi ce qui fait que tout d'un coup, on se dit « Mais alors, cet auteur que je ne connaissais pas, là, il raconte quelque chose de moi. » Or, aujourd'hui, il est fondamental pour des cultures comme l'Europe, mais comme la France, d'avoir une possibilité de renvoyer sa propre image. Les Américains et les Chinois adoreraient qu'on ait tous les mêmes images en tête. Eh bien, la France résiste, elle dit non, on peut avoir beaucoup d'autres images en tête. C'est cette, comment dirais-je, ce reflet de l'âme des spectateurs que les auteurs, réalisateurs essayent de mettre sur un écran. Et c'est cette rencontre-là qui fait qu'on est fort.
Vous étiez, Pierre Jolivet, au nom de l'ensemble des créateurs français, très inquiet au mois d'avril dernier. Vous étiez plus rassuré au mois de juin. Qu'est-ce que vous avez comme garantie que cette loi sur l'audiovisuel qui va être débattue au Parlement va permettre de préserver cet esprit, cette âme que vous avez défendue au micro d'Europe 1 ce matin?
Bah écoutez, on se bat pied à pied, on a un ministre qui comprend les enjeux, on a un gouvernement qui est très libéral, on sait que les... Vous savez, ils sont comme ça, hein. Les grands patrons ont déjà été reçus par Emmanuel Macron ou Édouard Philippe. Pour l'instant, on parle de cinéma, les créateurs, les réalisateurs n'ont toujours pas été reçus ni par le Premier ministre, ni par le Président de la République. Ça n'est jamais arrivé depuis que je m'occupe de tous ces sujets. Donc, comme ce sont eux qui vont arbitrer à la fin, on garde vraiment un grand niveau d'inquiétude. Mais on travaille énormément. Voilà, il n'y a que le travail. On essaie de trouver des idées. Le cinéma français a une bonne santé parce que mes glorieux aînés, que ce soit Costa-Gavras, Claude Lelouch, Tavernier, étaient des gens très inventifs et beaucoup de solutions n'ont pas été trouvées par les politiques, mais par ces immondes corps intermédiaires que l'on déteste aujourd'hui. Nous, on ne se contente pas d'être un corps intermédiaire. On s'en fout un peu d'être un corps intermédiaire. Nous, on est des scénaristes. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver les idées qui vont faire que le cinéma français sera dans une même bonne forme intellectuelle et mentale dans 20 ans.
Et de convaincre que ces idées sont bonnes. Ce sera votre grand travail de l'année 2020.
C'est la conviction, c'est ce qui fait se lever très tôt le dimanche matin.
Ben merci de l'avoir fait pour Europe 1. C'était passionnant de vous entendre, Pierre Jolivet. Merci d'être venu dans C'est arrivé demain. C'est déjà fini, Justine.
Ah ouais.
Nous avons fait un grand voyage, hein. Nous sommes partis des mouvements sociaux, nous sommes allés en Amérique, nous sommes allés jusqu'en Chine pour parler football et pour parler de ce cinéma. Vous retrouverez Patrick Cohen samedi prochain, dès samedi 9h. Un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réussir à mener ce défi des émissions du 28 et 29 décembre. Je pense notamment à Anne-Claire Bazin à la programmation, à Valentine Jelin et Cyril Pascal pour la réalisation. Passez une bonne fête et une bonne fin de week-end. Patrick Cohen revient samedi prochain.